France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec David Gourion.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans notre émission d'aujourd'hui sur France Inter, nous allons nous aventurer dans les méandres de l'inconscient, ce continent mystérieux de notre esprit, en explorant comment les écrans modifient sa topographie chez les jeunes, chez lesquels nous observons une augmentation en flèche des problèmes de santé mentale. Notre périple nous mènera des sombres forêts de la lycanthropie, cette ancienne croyance selon laquelle la métamorphose d'un homme en loup serait possible, au nouveau délire high-tech, qu'il soit de nature complotiste, vaccin Covid truqué par exemple, ou à thématique d'espionnage informatique ultra-moderne. Un voyage à travers le temps pour comprendre comment les délires, ces étranges révélateurs de l'inconscient collectif, évoluent avec notre société. Imaginez, si vous voulez, un monde où les loups-garous ne rôdent plus dans nos campagnes, mais dans les zones d'ombre de l'Internet. Où les peurs ancestrales prennent la forme de virus, non plus seulement biologiques, mais informatiques. Ces métamorphoses des thèmes délirants à travers les âges ne sont pas de simples anecdotes historiques. Elles reflètent l'évolution de nos sociétés, de nos technologies et surtout de nos inconscients. Ou plus exactement, pour paraphraser le grand Carl Gustav Jung, de notre inconscient collectif. Et pour illustrer cela, j'aborderai l'histoire de Camille qui a souffert d'une spectaculaire bouffée délirante aiguë à thématique de cyber-espionnage. Et puis, à côté de la thématique délirante, il y a la thématique narcissique. Parce que oui, à l'ère des écrans, l'inconscient des jeunes est un théâtre d'ombre où se projettent de nouvelles images à flux continu. Les vidéos TikTok, Instagram, Facebook, les likes et les swipes sont leur nouvelle mythologie. Les réseaux sociaux sont le miroir déformant dans lequel se reflètent leurs idéaux, leurs peurs, leurs désirs et aussi leurs rêves, évidemment. Mais alors, quelle est l'histoire que nous raconte ce miroir? Est-ce une épopée où chaque utilisateur devient le héros performatif de sa propre histoire, perdu dans une quête narcissique sans fin? Ou bien, est-ce plutôt une tragédie moderne ou quête narcissique? Comparaison systématique et anxiété de performance tiennent le premier rôle. Et là, nous aborderons une autre situation, un autre cas clinique avec l'histoire de Julie et de son cyberharcèlement. Alors d'un côté, évidemment, nous pourrions rire, sourire de ces quêtes modernes qui semblent tellement éloignées des épopées de nos ancêtres. Mais en fait, derrière cette ironie se cache une vérité plus sombre. Les écrans, en effet, ne sont pas de simples fenêtres sur le monde. Ils sont les architectes de nos réalités, façonnant nos perceptions, nos interactions et finalement notre inconscient. Alors, chers auditeurs, que révèlent ces nouveaux délires numériques sur notre époque? Sommes-nous simplement les victimes passives de nos écrans ou participons-nous activement à la création d'un nouveau folklore numérique? Un folklore où les loups-garous ont été remplacés par des trolls et les maléfices par des malwares. Après avoir partagé avec vous ces réflexions sur les métamorphoses de l'inconscient à l'ère des réseaux sociaux, je répondrai avec un immense plaisir aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast, disponible évidemment sur toutes les bonnes plateformes d'écoute.
L'inconscient, avec David Gourion, sur France Inter.
Dans cette émission, nous allons dérouler le fil d'Ariane de l'inconscient numérique. En quête de réponses, nous allons explorer comment les jeunes, immergés dans ce monde digital, tissent leurs propres mythes, leurs propres peurs et peut-être leur propre forme de sagesse. Car si l'inconscient est un miroir de notre société, alors en comprenant ces nouveaux délires, nous pourrons peut-être commencer à comprendre le futur vers lequel nous naviguons. Et puis d'ailleurs, chers auditeurs, si Freud avait eu Instagram, n'aurait-il pas lui aussi double tapé sur quelques mèmes choisis avec soin?
Nous sommes ici pour démontrer par l'exemple que les peurs de M. Talbot sont tout à fait infondées. Votre père n'est pas un loup-garou. Vous n'avez pas été mordu par un loup-garou. Vous ne deviendrez pas un loup-garou.
Alors permettez-moi de revenir à la lycanthropie, ce délire sur les loups qui, dans son sens le plus ancien et mythologique d'ailleurs, fait référence à la malédiction de se transformer en loup, ou plus exactement à l'état psychologique dans lequel une personne croit être capable de cette transformation. À l'époque, on délirait sur ça. C'était ça le délire le plus fréquent des grands dépressifs. Historiquement, cette croyance était profondément ancrée dans les mythes et le folklore européen, reflétant des peurs profondes et inexpliquées de la nature, de l'animalité inhérente à l'homme et de la frontière parfois floue entre l'humain et le bestial. Cette forme ancienne de délire, si on peut l'appeler ainsi, n'est pas seulement un symptôme psychotique basé sur un récit fantastique. Elle est révélatrice des angoisses et des croyances d'une époque. Elle met en lumière la manière dont les sociétés projettent leurs peurs, leurs désirs inavoués et leur sentiment d'impuissance face aux forces de la nature et à leur propre nature sur des figures mythologiques ou surnaturelles. Aujourd'hui, les formes de délire ont évolué, métamorphosées par les avancées technologiques et les changements sociaux et culturels, évidemment. À l'ère numérique, les nouvelles peurs ne gravitent plus autour des sortilèges de sorcières et de la métamorphose en bête sauvage, mais s'orientent vers des menaces perçues comme plus immédiates et réalistes dans un contexte moderne. L'espionnage informatique, les virus, tant biologiques que numériques avec la pandémie de Covid-19. Eh bien voilà, ces thèmes modernes sont les nouveaux visages de l'inconscient collectif, reflétant les anxiétés d'une société hyperconnectée, où l'information et la désinformation se propage à une vitesse vertigineuse. Ce passage, d'ailleurs, de la lycanthropie au délire moderne, lié aux technologies et aux maladies contemporaines, marque une évolution significative dans ce que l'inconscient collectif révèle sur nos peurs communes. Si les peurs d'antan étaient centrées sur la nature et l'inconnu physique, les peurs contemporaines sont focalisées sur l'inconnu numérique et les menaces à notre intégrité psychologique et physique dans un monde interconnecté. Ces nouveaux délires, façonnés par l'ère numérique, ne sont pas moins réels ou moins puissants dans leur impact sur l'esprit humain. Ils sont simplement les miroirs modernes de nos luttes internes, de notre besoin de contrôler l'incontrôlable et de notre quête éternelle pour comprendre notre place dans un monde en constante évolution. En ce sens, la transformation des délires à travers les âges est un témoignage incroyable de notre adaptation continue au changement de notre environnement, reflétant les nouvelles formes de savoir et de peur qui structurent notre époque. Et maintenant, chers auditeurs, le plus important, préparez-vous à plonger dans le cœur battant de notre sujet, les témoignages de patients. C'est ce que vous préférez, je le sais bien. Ces petites pépites de vérité, ces selfies de l'âme, si j'ose cette métaphore ultra connectée, que nous avons capturées pour vous et qui reflètent les peurs et les peines des jeunes en situation de souffrance psychique, et malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux à notre époque. Rencontrons d'abord Camille, nous l'appellerons Camille, une jeune patiente, une lycéenne de terminale, brillante, ultra connectée, comme tant d'autres de sa génération. Alors Camille, elle navigue avec aisance entre ses cours en ligne, ses réseaux sociaux et les innombrables heures passées à s'informer ou à se divertir sur Internet. Jusqu'ici, rien d'inhabituel. Mais voilà, ses parents sont inquiets car ils la trouvent depuis quelque temps bizarre. Il faut dire que depuis quelques semaines, Camille se sent observée. Non pas dans le monde réel, mais à travers ses écrans. Au début, c'était, dit-elle, une sensation diffuse, presque négligeable, comme un petit frisson passager. Le problème, c'est que cette impression s'est transformée en certitude. Quelqu'un, quelque part, espionnait chacun de ses clics, chacune de ses conversations. Camille commence du coup à changer régulièrement ses mots de passe. Elle couvre la caméra de son ordinateur d'un adhésif noir. Elle évite son téléphone, persuadée qu'il est truffé de logiciels espions. Un soir, elle confie même à ses parents alarmés que des hackers l'ont prise pour cible, qu'ils sont capables de contrôler à distance ses appareils électroniques et qu'ils ont accès à absolument toutes ses informations personnelles. Elle leur explique avec une précision technique étonnante mais sans preuves concrètes, comment ces cyberespions orchestrent une surveillance constante. Ses parents, bien qu'inquiets, peinent à suivre son raisonnement, tant il semble s'éloigner de la réalité. Intrigué et préoccupé par ses comportements, il décide de consulter un psychiatre spécialisé dans l'adolescence. Ils viennent donc me voir avec Camille. Je découvre que Camille est en plein épisode délirant aigu, inaugurant une phase maniaque d'un trouble bipolaire. Maniaque, ça veut dire excitation, euphorie, désinhibition et délire dans son cas. Cette révélation est un choc pour la famille, mais aussi et surtout le début d'un chemin vers la compréhension, le soutien et la guérison. L'obsession de cette pauvre Camille pour le cyberespionnage n'est pas une peur infondée née du digital, mais le symptôme d'un véritable trouble psychique aigu où son interprétation de la réalité est totalement altérée. Le thème du cyberespionnage, comme cœur de son délire, est significatif, illustrant comment les nouvelles technologies et les peurs qu'elles peuvent engendrer s'entremêlent avec des problématiques psychiques individuelles. Autrefois, il y a quelques siècles, Camille, ou plutôt l'ancêtre de Camille, aurait sans doute souffert d'un délire de lycanthropie. Elle aurait eu peur de se transformer en loup-garou. L'histoire de Camille, bien qu'impressionnante par la sévérité des symptômes et de la souffrance, illustre un phénomène bien réel. La manière dont notre monde technologiquement saturé peut influencer nos inconscients au point de devenir le reflet de nos états psychiques les plus intimes. Avec Camille, nous avons abordé la question des délires liés aux nouvelles technologies. Nous allons maintenant avec Julie aborder la question du cyberharcèlement. Julie est une jeune lycéenne de 16 ans que ses parents m'ont amenée pour une situation de cyberharcèlement. Son récit commence par une photo, une simple photo d'elle à une fête entre amis. Elle pose devant ses potes, insouciante, avec un grand sourire. Elle montre la photo à ses amis qui lui disent qu'elle est drôlement belle. Une copine même lui dit « Trop sexy, ton corsage échancré ». Elle la partage, cette photo, sur les réseaux sociaux, comme un instantané de bonheur à conserver, à montrer au monde entier. La photo est maintenant sur les réseaux sociaux. Elle la trouve parfaite. Et alors commence l'attente pour Julie. L'attente. Mais l'attente de quoi? Eh bien l'attente des likes, des commentaires. Chaque notification est un battement de cœur. Chaque silence, une pointe de doute. Suis-je assez bien? Suis-je assez belle? Suis-je aimée? L'estime de soi de Julie est aussi au rythme des notifications. Une sorte de balai numérique où chaque pas est mesuré par l'approbation des autres. Cette constante comparaison avec les autres, ces autres vies que les nôtres, que la mienne, pour paraphraser le roman d'Emmanuel Carrère, que l'on imagine plus excitante, plus remplie, plus tout. Paraître parfait devient un objectif inatteignable, mais ô combien désiré. Mais patatras, le lendemain, cette même photo, censée être parfaite, eh bien elle devient le déclencheur d'une avalanche de commentaires malveillants, de messages privés sexistes extrêmement dégradants. Des inconnus se joignent au cortège de cruauté, masqués derrière l'anonymat que leur offre leur écran. Julie, d'abord surprise, tente de rire de ces commentaires, de les minimiser. Mais au fil des jours, le harcèlement s'intensifie. Des montages photos d'elle, déformés, ridiculisés, circulent. Son espace numérique, autrefois refuge et lieu d'expression de soi, se transforme en une arène hostile. Elle commence à redouter chaque notification, chaque vibration de son téléphone est une potentielle nouvelle attaque. Et d'ailleurs, les effets ne tardent pas à se manifester dans sa vie quotidienne. Julie, autrefois enjouée et sociable, se replie sur elle-même. Elle évite les interactions sociales, craignant que ses camarades de classe ne soient parmi ceux qui la tourmentent en ligne. Elle se sent traquée, exposée, vulnérable, non seulement dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde bien réel, et ce, 24 heures sur 24. La nuit, ses angoisses prennent une forme encore plus sombre, parce que Julie, elle commence à faire des cauchemars récurrents. Elle rêve qu'elle est poursuivie par une foule sans visage, chacun tenant un smartphone à la main, pointé sur elle comme une arme. Dans ses rêves, elle court à travers des labyrinthes de ruelles sombres, les échos des rires cruels résonnant derrière elle. Elle se réveille en sursaut, le cœur battant, incapable de distinguer la frontière entre le réel et l'imaginaire, entre ses cauchemars et sa réalité quotidienne. Ces horribles rêves, eh bien Julie, elle arrive à les interpréter comme l'expression de son inconscient, traumatisé par le harcèlement. Il reflète son sentiment de vulnérabilité, sa peur d'être constamment observée et jugée, la sensation d'être traquée, même dans ce qui devrait être le sanctuaire le plus sacré de son esprit. En thérapie, Julie apprend peu à peu à verbaliser ses expériences, à reconnaître l'impact profond du harcèlement sur son inconscient. On parle d'élaboration psychique. Elle comprend que ses cauchemars sont l'écho de ses peurs et de ses angoisses, une manifestation de l'impact toxique des réseaux sociaux sur son bien-être mental. Avec le soutien de son thérapeute à mes côtés, Julie entame un lent processus de guérison, apprenant à se réapproprier son espace numérique et à reconstruire son estime de soi, fragment par fragment, pour finalement retrouver la paix aussi bien dans le monde éveillé que dans celui de ses rêves.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec David Gorion.
Au-delà des tristes histoires de Camille et de Julie, qui vont mieux heureusement, prenons un instant pour prendre conscience du tableau global de l'impact sur le psychisme des jeunes à notre ère digitale. 95% des adolescents d'aujourd'hui ont accès à un smartphone, et une large majorité se connecte quotidiennement sur diverses plateformes. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, etc. Chacune de ces applications a sa propre langue, ses propres règles, son propre univers. Mais du coup, quel est l'impact réel des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes? Disposons-nous de données scientifiques? Eh bien oui, les études de recherche montrent globalement plusieurs points. Premièrement, le temps d'utilisation sur les réseaux sociaux est globalement corrélé à l'augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes, notamment la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil et les addictions. Deuxièmement, l'utilisation des réseaux sociaux peut également avoir des effets positifs sur les jeunes, en favorisant la communication, la connexion, le sentiment d'appartenance à une communauté et l'engagement social. Troisièmement, la fréquence de l'exposition au cyberharcèlement, à la pornographie trash et les impacts sur l'estime de soi et l'image corporelle, en particulier le poids avec le risque d'anorexie, sont particulièrement préoccupants et nécessitent une meilleure préparation des jeunes, c'est-à-dire une éducation numérique responsable. Car nous l'avons vu avec le cas de Julie, la pression de paraître parfait est omniprésente. Chaque like, chaque commentaire devient une mesure de notre valeur aux yeux du monde pour les jeunes. Cette quête de validation peut se transformer en une source d'anxiété massive. Les jeunes se retrouvent donc dans une course sans fin, où la ligne d'arrivée est sans cesse repoussée par de nouvelles attentes, de nouveaux standards de perfection. Et d'ailleurs, que penser de cette étude récente qui révèle que 60%, je dis bien 60% des jeunes, se sentent plus confiants en ligne que face à face? Fascinant, n'est-ce pas? Comme si nos avatars numériques portaient des capes d'invisibilité, nous rendant soudainement invincibles. Et puisque cette série est précisément centrée sur l'inconscient, eh bien permettez-moi de revenir sur un aspect crucial. Le sommeil et donc le rêve. Alors oui, c'est une évidence, il y a l'effet direct bien connu des écrans sur le sommeil, sur ces moments de repos si cruciaux pour l'esprit et le corps. La lumière bleue émise par nos fidèles compagnons numériques trompe notre cerveau, retardant le signal du sommeil. Voilà, c'est le soir, bientôt la nuit. Le moment où l'on devrait déposer les armes, se reposer. Mais, scroller, n'est-ce pas une façon de faire durer la nuit encore un peu? Rien qu'un peu. La lumière bleue, cette douce ennemie, promet le sommeil tout en le tenant à distance, dans une quête insatiable de quelque chose qui pourrait apaiser ce sentiment d'incomplétude. Combien de jeunes se retrouvent à défiler indéfiniment dans l'obscurité, cherchant le sommeil qui fuit devant la lumière de l'écran? Évidemment, cette navigation nocturne perturbe les cycles de sommeil, laissant derrière elle fatigue, irritabilité et une empreinte profonde sur la santé mentale. Mais quel impact sur les rêves et donc sur nos inconscients? Difficile de le dire, mais derrière chaque écran, il y a un cœur qui bat, des espoirs, des rêves, mais aussi parfois des craintes et des doutes. Et puisque l'on parle d'inconscient et de rêve, on peut se demander si les réseaux sociaux influencent l'inconscient collectif. Vaste question à laquelle l'équipe de recherche de Megan Moreno a tenté de répondre dans une étude passionnante basée sur l'impact subliminal de Facebook sur la consommation d'alcool des jeunes. Ils sont partis de la constatation de l'essor fulgurant des réseaux sociaux et du fait que ces derniers tissent de nouveaux espaces virtuels d'influence de masse. Ces nouveaux espaces sont peuplés de messages et d'images d'influenceurs idéalisant la consommation d'alcool, financés plus ou moins discrètement par les industriels du domaine, on s'en doute. À travers le prisme des théories modernes de l'apprentissage social, ces chercheurs ont tenté de décrypter comment ces interactions numériques façonnent les représentations liées à la consommation d'alcool chez les jeunes.
Il est 3 heures.
Je crois que j'ai légèrement esquinté ta caisse.
Tu roules bourré. C'est lamentable. Je trouve ça irresponsable.
Putain, c'est tout. Je te jure, on dirait une petite vieille qui parle.
Et toi, qu'est-ce que t'es ? Une poivrotte.
Une poivrotte sans deck. Tu te crois en 1950, ma parole, une poivrotte, non mais...
Ces nouveaux travaux révèlent un paysage complexe où la psyché collective et individuelle se reflète et se transforme dans l'espace numérique. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le pont avec les archétypes jungiens, ces modèles universels et innés de comportement et de personnalité qui, selon le grand Carl Gustav Jung, résident dans l'inconscient collectif. Ils émergeraient dans nos rêves, nos mythes, nos arts et même dans nos comportements quotidiens. Ces archétypes façonnent nos narrations personnelles et collectives et peuvent influencer, consciemment ou inconsciemment, nos décisions et nos interactions avec les autres. Or, parmi les archétypes jungiens, il y en a deux qui peuvent être observés dans la manière dont les jeunes se mettent en scène et interagissent sur les réseaux sociaux.
Allez, balance les shots.
Ouais, cool, bonne idée.
Voilà pour toi.
On va être frais demain. Un très gros shot.
Allez,
pour moi.
Allez, cul sec.
Wow.
Particulièrement autour des thèmes liés à l'alcool et aux drogues. Le héros et le rebelle. L'archétype du héros, c'est celui du personnage qui part en quête, affronte des défis, surmonte des obstacles et revient transformé. Dans la vie quotidienne, l'archétype du héros peut s'incarner dans des personnes qui se battent pour relever des défis et qui n'ont pas peur de descendre, tiens par exemple, des bouteilles de vodka pour affirmer leur force, leur résistance, voire leur virilité. L'archétype du rebelle, c'est celui qui défie le statu quo, qui remet en question les normes et qui cherche à renverser l'ordre établi. Eh bien, le rebelle, il peut être vu dans les attitudes de ceux qui s'opposent aux autorités parentales ou institutionnelles et qui favorisent le changement et la révolution. En fumant et en picolant, par exemple. Triste révolution en réalité. Au fond, ces plateformes virtuelles deviennent des scènes modernes où les mythes personnels et collectifs s'expriment, les comportements liés à l'alcool étant à la fois miroir et moteur de quêtes identitaires, de rébellion, ou de recherche de communauté et d'appartenance. En naviguant entre ces archétypes, les interventions préventives pourraient être conçues pour résonner avec ces récits profondément humains, offrant ainsi des alternatives narratives qui favorisent des choix de vie plus sains et conscients chez les jeunes. Je pense par exemple à l'archétype du soignant plutôt que l'archétype du héros. Cette convergence entre le virtuel et le réel ouvre de nouvelles avenues pour des interventions ciblées, exploitant les réseaux sociaux pour identifier les comportements à risque et déployer, pourquoi pas, des stratégies préventives plus efficaces, marquant ainsi l'aube d'une ère où la technologie sert de pont vers des choix de vie plus sains. En conclusion, bien que les réseaux sociaux offrent des avantages absolument significatifs en termes de connexion et d'engagement, ils posent également pour les jeunes des risques pour la santé mentale et le bien-être. Une utilisation équilibrée, accompagnée d'une éducation sur les pratiques numériques responsables, est essentielle pour maximiser les avantages tout en tentant de minimiser les risques. Cela nous rappelle l'importance de rester attentif aux signes de détresse chez les jeunes, particulièrement dans leur interaction avec le monde numérique. Il faut souligner la nécessité d'une approche empathique et informée face aux troubles psychiques, en évitant de les réduire à de simples réactions aux technologies, mais en les comprenant dans toute leur complexité. Parce qu'en comprenant mieux l'impact des réseaux sociaux sur nos nuits, et plus généralement sur nos vies, nous commencerons peut-être, soyons optimistes, à apprendre à nos jeunes à naviguer sur ces eaux digitales avec plus de conscience et peut-être un peu plus de bienveillance envers les autres et envers eux-mêmes. Restez à l'écoute, dans un instant je répondrai à toutes vos questions, mais tout de suite voici Yoa, Matcha Queen sur France Inter.
Elle boit du matcha avec ses copines. Elle pense aux garçons qui lui font du mal. Mélange le yoga et les aspirines. Elle vit sa vie comme si c'était un drame. Elle sait plus pourquoi le soir elle déprime. Avant de plonger dans un rêve subliminal. Mais du sparadra sur son cœur. Avec ses copines, oublie les garçons qui lui font du mal. Un peu à l'étroit dans sa paire de jeans. Passer des heures à éviter les drames. Elle met des tonnes de crème sur son visage. Oh mon Dieu, comme c'est criminel de prendre de l'âge. Pas d'amour en vue dans son paysage, mais seulement quelques traumatismes.
Sur France Inter, dans l'inconscient, c'est à vous maintenant. Je vous écoute.
Bonjour, la question que je vous pose, pour vous, quel est le plus grand danger, entre guillemets, lié à l'interaction constante qu'on a avec nos écrans et les réseaux sociaux? Et à l'inverse, quel est le plus grand avantage lié à ces nouvelles formes d'interaction?
Bonjour Salomé, merci beaucoup pour cette passionnante question. J'ai le sentiment que vous vous sentez sans doute un peu concerné par cette question. En fait, nous le sommes tous. Moi, je pense que le plus grand danger de nos écrans et des réseaux sociaux, eh bien, c'est exactement le même danger que celui auquel nous faisons face quand nous sommes confrontés à un buffet à volonté de sucreries. C'est l'excès. Et tout donne envie, on a envie de goûter à tout, et puis on se retrouve totalement submergé. Eh bien, cette interaction constante avec nos écrans peut devenir source d'une véritable indigestion digitale, où la distinction entre la vie réelle et la vie en ligne commence à se brouiller. Et du coup, le risque est de glisser dans une sorte de réalité parallèle, virtuelle, un univers où le temps passé à scroller, liker, commenter, pourrait grignoter empiéter et finalement remplacer celui qui est consacré à bâtir des vrais souvenirs dans le monde réel, sans oublier le potentiel de dépendance, puisqu'il y a des vraies addictions aux écrans qui peuvent être source de grandes souffrances. Moi, je vois beaucoup chez mes patients, jeunes et moins jeunes aussi, parfois des carrières ou des passages très compliqués liés à l'utilisation compulsive des écrans, des nuits blanches, et des jeunes qui décrochent, qui passent à côté de leurs études, ou des personnes qui, je pense même à un patient avocat qui, n'arrivant plus à se détacher des écrans, n'assure plus le suivi correct de ses dossiers et est venu me voir pour ça. Donc ça peut être une vraie source de souffrance, une vraie drogue. Donc ça peut avoir un vrai impact sur notre santé mentale, ça a été bien montré. On a d'ailleurs un certain nombre d'études scientifiques qui montrent, et là encore, c'est l'excès, c'est ma métaphore du buffet à volonté, c'est l'excès qui nuit. L'excès peut entraîner des troubles anxieux, peut entraîner des troubles dépressifs, comme toutes les addictions en somme. À l'inverse, et je crois qu'il faut aussi voir les avantages, eh bien c'est un peu comme une place de village mondiale, accessible 24 heures sur 24. Ce sont des outils incroyables qui permettent de tisser des liens, de démocratiser l'information, de catalyser des mouvements sociaux, et même de retrouver, qui sait, parfois des amours d'enfance, ou des amis d'enfance tout simplement, perdus de vue. Il nous permet de rejoindre des communautés aux intérêts similaires, de partager des passions, et parfois, pas toujours, parce que parfois les contenus sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on en espère, d'élargir notre horizon intellectuel et culturel, le tout d'un simple clic. La connaissance à portée de clic, c'est quand même une révolution semblable à celle de l'imprimerie de Gutenberg. Alors peut-être, Salomé, l'astuce est d'essayer de trouver le bon équilibre, d'utiliser ces plateformes comme des trampolines pour rebondir vers des rencontres et des expériences enrichissantes, tout en gardant les pieds bien ancrés dans le sol fertile de la vie réelle. C'est de s'assurer que notre consommation digitale soit aussi saine et équilibrée qu'un régime méditerranéen, en gardant du temps pour savourer les plaisirs hors ligne. Un grand merci, Salomé, pour cette belle question.
Bonjour. Je m'appelle Monique et j'aimerais savoir si vous pensez que ce n'est pas un peu utopique de penser qu'on peut rééduquer la population sur la manière d'utiliser les réseaux sociaux. Merci.
Ah Monique, quelle question fascinante. Je vous remercie de l'avoir posée. Envisager la rééducation numérique de la population, Monique, c'est un peu comme vouloir dresser des chatons à ne pas jouer avec une pelote de laine. C'est ambitieux. Certainement un peu utopique, mais avec beaucoup de patience et quelques astuces, on peut peut-être réussir à éviter quelques nœuds. Il est vrai que modifier les habitudes enracinées peut sembler aussi ardu que de convaincre nos adorables petits félins de ne pas grimper au rideau. Cependant, il ne s'agit pas tant de rééduquer que de sensibiliser et d'ajuster. C'est une démarche qui demande d'aller à la rencontre de chacun, de prendre le temps d'expliquer, de démontrer et de guider vers une utilisation des réseaux sociaux qui soit à la fois plus consciente et plus constructive. Alors certes, il serait peut-être utopique de penser que l'on peut toucher chaque individu, mais si nous parvenons à instaurer des petits changements, comme apprendre à vérifier une source avant de partager une information, ça je crois que c'est crucial de l'apprendre à nos enfants et à nos adolescents très tôt, très jeunes, ou à prendre une pause digitale pour souffler un peu, ça aussi il faut l'apprendre tôt à nos adolescents. Alors nous aurons déjà accompli une grande chose. Peut-être que cela fait partie de l'éducation, du rôle de l'école. Vous l'avez peut-être vu, Monique, il y a eu, le gouvernement s'est emparé du vaste chantier du harcèlement scolaire. Là aussi, la problématique du cyberharcèlement en ligne, c'est aussi une problématique sur laquelle nous pouvons et nous devons éduquer, informer, sensibiliser dès le plus jeune âge. Après tout, même la plus longue démarche commence par un pas. Et qui sait, Monique, peut-être que dans le futur, nous serons tous des champions de la modération numérique, à l'instar d'un funambule marchant avec aisance sur le fil de l'info. Et je voudrais ajouter par ailleurs, Monique, loin d'être purement utopique, il y a actuellement un vrai travail gouvernemental, puisqu'une mission a été lancée par l'Élysée directement et qui est coordonnée par notre éminent collègue et ami, le professeur Amine Benyamina, sur les écrans et sur la façon dont les jeunes s'interfacent avec ces écrans et dont nous pouvons les aider ou du moins les guider, tenter en tout cas. Et je crois pas de façon utopique, mais vraiment, je crois beaucoup à l'éducation, je crois beaucoup à la dimension de savoir, et les savoirs, c'est pas uniquement les savoirs académiques, c'est aussi les savoir-être, les savoir-faire, les savoirs expérientiels. Et au fond, lorsque Gutenberg a lancé l'imprimerie, nous avons appris à utiliser les livres peu à peu, c'est pas du jour au lendemain. Eh bien, là aussi, nous sommes au début, c'est un peu l'aurore de ce nouveau monde, et l'intelligence artificielle est un événement là aussi incroyable en termes de progrès humain, mais aussi avec le sombre revers parfois de la médaille. Et là aussi, nous appartient à nous adultes, responsables, parents, éducateurs, responsables politiques, enseignants, etc., et médecins, de réfléchir à ces sujets-là et de mieux encadrer les jeunes, parce que c'est un sujet de santé publique et un sujet éminemment social et politique. Merci Monique.
David, par rapport au sujet du jour, je me sens directement concerné, étant papa de jumelles collégiennes. Deux choses me frappent particulièrement avec les réseaux sociaux. Le côté narcissique que vous avez très bien décrit avec l'exemple de Julie notamment. Et aussi le fait qu'on essaie toujours de montrer uniquement une vie parfaite, idéale, et que les côtés positifs de sa vie. J'aurais deux questions. D'abord, quel discours tenir à des ados qui sont pas forcément très réceptifs par rapport à ces sujets et le discours de leurs parents. Et une autre question, sans rentrer dans les détails, quelqu'un de très proche de mes filles a des troubles bipolaires. Et c'est quelque chose que je surveille du coup de très près chez elles. Quelle réaction par rapport aux réseaux sociaux peuvent peut-être m'alerter par rapport à cette problématique? Merci d'avance.
Bonjour David, cher papa de jumelles collégiennes. Alors je vous salue doublement parce que je suis moi-même papa de jumeaux. Et bienvenue dans le monde parfois kafkaïen des réseaux sociaux à l'adolescence. Alors voici quelques pistes de réflexion pour tenter de naviguer, j'ai les mêmes difficultés que vous, dans ces eaux digitales parfois agitées. Pour le discours à tenir à vos adolescentes, imaginez peut-être que vous êtes une sorte de guide touristique dans la savane des réseaux sociaux. Vous voulez les préparer à ne pas se faire dévorer toute crue par les tigres du narcissisme ou les crocodiles de la perfection. Commencez par leur dire que chaque selfie postée n'est pas un reflet exact de la réalité, mais plutôt une sorte de tableau peint avec le pinceau de l'ego. Rappelez-leur que derrière chaque photo soi-disant parfaite, il y a chez ces jeunes femmes parfois des heures de maquillage, de coiffage, de souffrances qui ne sont pas capturées par l'objectif, parfois des régimes alimentaires drastiques, voire dangereux, et évidemment de nombreux filtres qui masquent tous les défauts. Donc ça n'est pas la réalité, il faut leur dire. Il faut leur dire, c'est important de leur expliquer. Et puis, pour les aider à discerner le vrai du faux, ben moi je vous incite à le faire avec humour et tendresse. Vous savez, c'est un peu comme lorsque l'on montre seulement la partie émergée de l'iceberg sur Instagram. Ça qu'il faut dire à vos filles. Instagram, les photos, etc., c'est la partie émergée de l'iceberg. Et que tout le reste, tout ce temps que je décrivais avant, y compris le bazar dans la chambre de la jeune fille dont on voit la photo parfaite, eh bien reste immergé, caché, hors de vue. C'est un iceberg. Invitez-les à un jeu où elles identifient les filtres qu'elles ou leurs amis utilisent et discutez de ce que ces images ne montrent pas. De la vraie vie, des difficultés, de ce qu'il a fallu peut-être faire et le temps passé, la souffrance pour réaliser ces photos. Allons derrière le masque et faisons-le peut-être pas de façon anxiogène ou moralisatrice avec nos adolescents, mais plutôt de façon ludique et de façon drôle. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive à passer des messages. Et gardez à l'esprit, évidemment et avant tout, qu'une communication ouverte et bienveillante sur toutes ces questions est souvent la meilleure clé. Interdire, passer son temps à jouer aux gendarmes, il faut mettre des limites, c'est essentiel, fixer un cadre. Évidemment, nos adolescents, c'est un jeu formidable que de transgresser ce cadre, évidemment, mais il faut aussi quand même laisser la porte ouverte au lien à la communication, parce que le jour où se passera quelque chose de plus grave, parce qu'elles ont reçu une insulte ou parce qu'elles ont posté un selfie un peu dénudé et qu'elles recevront des menaces, si elles ont le sentiment que nous avons été extrêmement sévères, extrêmement strictes, elles n'oseront peut-être pas nous le dire parce qu'elles se diront tout simplement « je vais me faire engueuler ». Et elles auront plus peur de se faire engueuler par nous que de nous parler de leurs problèmes. Donc, c'est une ligne de crête sur laquelle il faut essayer de se tenir. En somme, rappelons à nos filles que la vie réelle, avec ses hauts et ses bas, est bien plus riche et intéressante que n'importe quelle vie filtrée en ligne, et que nous sommes là pour toutes les aventures dans le monde virtuel comme dans le monde réel, pour les accompagner, et surtout que tout comme dans la vie, sur les réseaux sociaux, il est important de garder le sens de l'humour, un certain décalage, et de ne pas prendre la pause trop au sérieux. Quant à la surveillance, David, et là vous posez une autre question, qui est une question de prévention, de dépistage de santé mentale, quant à la surveillance, des signes avant-coureurs de troubles bipolaires chez des adolescents vulnérables. Alors les adolescents vulnérables ont souvent des antécédents familiaux de bipolarité, on sait qu'il y a une composante génétique familiale, et la bipolarité, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas bien, c'est l'alternance de périodes de dépression avec l'inverse de la dépression, c'est-à-dire des périodes d'excitation dans lesquelles on se sent exalté, un peu Superman, tout est possible, on parle beaucoup, on ne dort plus la nuit, on est en hyper-éveil, on a une énergie de dingue et tout est possible, et on fait beaucoup de bêtises dans ces périodes-là, puisqu'il n'y a par définition plus de limite, on peut tout faire. Alors c'est un trouble sérieux qui nécessite une prise en charge et des soins adaptés par des professionnels de santé mentale et qui requiert un diagnostic médical. Alors est-ce que les réseaux sociaux peuvent déclencher, créer de la bipolarité? Ça non, ça n'est pas... Il y a une vulnérabilité, ce sont des troubles multifactoriels, il y a des causes génétiques, environnementales, le cannabis peut jouer un rôle, les facteurs de stress... Il n'y a pas de raison aujourd'hui de penser qu'il faudrait interdire à nos jeunes les réseaux sociaux sous prétexte que ça pourrait déclencher de la bipolarité. Ça, c'est pas le cas. Mais là où nous, psy, sommes extrêmement attentifs, c'est que les jeunes gens qui vont développer des troubles de santé mentale, bipolarité ou dépression, sont susceptibles de poster sur les réseaux sociaux des messages d'alerte qui peuvent nous permettre d'intervenir tôt et de prévenir des drames. Et ça, c'est très important pour nous. Ils sont parfois le... Peut-être que à votre époque, je sais pas, mais en tout cas à la mienne, le journal intime, c'était le journal papier-crayon, quand nous étions adolescents. Et bien aujourd'hui, le journal intime, c'est souvent les réseaux sociaux. Et c'est là que des jeunes gens en grande souffrance, en grande détresse, peuvent parfois, de façon extrêmement crue d'ailleurs, déposer leurs idées noires, ou de façon parfois plus subtile ou plus masquée, en disant « je vous aime tous, vous êtes incroyables », ou disent d'un seul coup « je voudrais donner mes affaires aux gens que j'aime beaucoup », etc. Et nous, on est très attentifs à ce type de messages-là, qui peuvent être parfois le révélateur d'idées noires. Il y a un autre signe auquel nous sommes parfois sensibles chez nos jeunes patients, c'est les changements brusques ou extrêmes dans le flux de partage. Un jeune qui a l'habitude de partager relativement rarement et qui d'un seul coup se met à envoyer des salves de messages toute la journée, toute la nuit, sur un mode d'excitation incroyable, ça peut être non pas une cause, mais un symptôme d'un état un petit peu d'excitation, d'exaltation qu'on va repérer, ou à l'inverse, un jeune qui avait plutôt l'habitude d'être assez présent sur les réseaux sociaux, qui d'un seul coup ne va plus rien poster, là aussi ça peut être... Bon, il peut être juste déconnecté, on a le droit et on leur conseille la déconnexion numérique, il faut pas s'en alarmer, mais parfois, c'est un petit signe que nous observons. En tout cas, David, et ça c'est vraiment un message de santé publique important pour tous les auditeurs, auditrices, en cas de préoccupation sur un poste de jeunes exprimant des idées inquiétantes, des idées noires, n'hésitez pas à faire le 3114, c'est le numéro vert gouvernemental qui vous mettra en relation avec un professionnel de santé mentale pour bénéficier de conseils avisés à toute heure du jour et de la nuit. Merci en tout cas et bon courage avec vos jumelles. Dans l'inconscient, nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions après Beyoncé, Bodyguard, sur France Inter. So sweet, I give you kisses in the backseat. I whisper secrets in the backbeat. You make me cry, you make me happy, happy. Leave my lipstick on a cigarette. Just toss it in, you stomp it out. Happy hour, oh, 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 oh. Et nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Bonjour Clarisse, je voudrais vous remercier docteur pour ce nouveau podcast, toujours très éclairant sur des sujets passionnants. Et j'aurais aimé avoir votre point de vue de psychiatre sur la différence selon vous entre le délire, les bouffées délirantes au sens clinique et les théories du complot qui peuvent être largement diffusées en ligne aujourd'hui. Et par ailleurs, est-ce que les bouffées délirantes chez les jeunes sont amenées à évoluer encore avec le développement de l'IA ?
Bonjour Clarisse et merci pour cette super question qui navigue entre psychiatrie, neurosciences cognitives et cyberspace. Alors, je vais essayer de vous répondre, mais vous nous emmenez là sur le chemin sinueux de la psyché humaine, un terrain parfois aussi complexe à déchiffrer qu'un grimoire ancien ou le dernier algorithme de Google. D'abord, les bouffées délirantes, au sens clinique, ont été décrites comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Une tempête soudaine dans le ciel clair de la conscience. Elles surgissent rapidement, le plus souvent entre l'âge de 15 et 25 ans, sans préavis, et peuvent en quelques heures amener un jeune ou une jeune femme à perdre temporairement le contact avec la réalité. C'est une expérience extrêmement intense qui peut comporter des hallucinations auditives, entendre des voix comme si quelqu'un était réellement dans la pièce, ou des hallucinations visuelles, ou sentir des choses dans son corps, et des croyances délirantes qui peuvent être de thématiques diverses, de persécution fréquemment, mais aussi mystiques, sentiment d'un seul coup d'avoir une mission incroyable à réaliser, d'être désigné, d'être l'élu de Dieu, de communiquer avec Dieu, le diable ou les anges, et parfois, plus inquiétant, des troubles du comportement, parce que parfois, ces voix donnent des ordres. Nous parlons dans notre jargon de syndrome d'influence. Et si vous entendez le diable dans votre tête qui vous dit d'aller tuer quelqu'un, il est parfois quasi impossible d'y résister. Les patients se sentent parfois un peu téléguidés par ces voix. Donc ce sont des états quand même extrêmement sérieux durant lesquels les jeunes expérimentent des états de très grande vulnérabilité émotionnelle. Alors on évoquait les troubles du comportement. En réalité, la dangerosité, elle est plutôt plus souvent envers eux-mêmes qu'envers les autres, hein, et on redoute beaucoup aussi les passages à l'acte suicidaires en particulier durant ces bouffées délirantes qu'il faut prendre très au sérieux. Donc c'est un trouble psychique et qui nécessite des soins immédiats et intenses et qui peut inaugurer une bipolarité, nous en avons parlé tout à l'heure, ou inaugurer une entrée dans un trouble schizophrénique, ou être un épisode sans lendemain, une psychose aiguë qui va se résoudre spontanément, parfois avec un traitement assez bref, et ça peut parfois aussi, évidemment, et c'est extrêmement fréquent, être déclenché par la prise de toxiques et de psychédéliques. Donc on fait tout un bilan médical, et si vous observez quelqu'un chez vos proches déclencher ce type d'épisode, et c'est relativement fréquent, il faut évidemment appeler tout de suite le 15 ou le 18 et apporter des soins immédiats. En comparaison, les théories du complot et les théories du complot sont très largement partagées par la population générale. Au moment du Covid, les études en population générale montraient que près de 30-40% des gens considéraient que les vaccins qui étaient proposés, les chiffres sont encore beaucoup plus élevés aux États-Unis, on était à près de 50-60% de la population générale considérait que les vaccins faisaient l'objet d'un complot de Big Pharma avec tout un tas de théories plus ou moins alambiquées. Et donc, les théories du complot ne sont pas l'expression d'une pathologie psychiatrique au même sens que la bouffée délirante que nous venons de voir. Elles sont plutôt des croyances qui se sont développées sur la base de fake news et qui se développent dans l'esprit un peu comme des vignes grimpantes dans le jardin de notre esprit. Elles peuvent se développer lentement, se nourrissant des nutriments du doute et de la méfiance, de l'inquiétude, de l'angoisse. Notre société, notre monde est de plus en plus complexe et elles sont souvent renforcées par la résonance qu'elles trouvent dans les communautés en ligne. Je pense notamment aux États-Unis à la communauté QAnon. Ces théories n'impliquent pas nécessairement une perte de contact avec la réalité. La personne n'est pas malade, elle n'est pas dans un état psychotique, mais plutôt une interprétation alternative de la réalité, une néo-réalité, une explication comme le gourou d'une secte qui proposerait une lecture tout à fait différente, paralogique, de la réalité du monde. Alors, pour reprendre votre question, parce qu'il y avait beaucoup de questions dans votre question, très riche, Clarisse, quant à l'évolution des bouffées délirantes à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle, c'est un peu comme demander si les serres de botanique vont changer avec l'introduction de nouvelles espèces de plantes. Oui, bien sûr. L'IA, avec son potentiel de réalité augmentée et de monde virtuel, pourrait créer des espaces où la ligne entre réel et imaginaire devient de plus en plus floue, et où les bouffées délirantes pourraient prendre de nouvelles formes, avec des idées peut-être plus enracinées dans la technologie que dans la métaphysique. Et on l'a vu d'ailleurs avec les implants là qui sont en train d'arriver, qui vont se développer, on l'a déjà évoqué dans un épisode précédent, et bien les informations que les implants que nous aurons probablement tous bientôt, si l'on en croit les données préliminaires des travaux d'Elon Musk, et bien ça va encore probablement plus brouiller les lignes entre le réel et le virtuel. Cependant, je pense que le cœur de la question demeure l'humain, avec ses craintes, ses espoirs et sa soif de comprendre l'incompréhensible, c'est-à-dire la complexité du monde. L'absurdité du monde, pour paraphraser Camus. Alors même s'il y a tisse des récits plus complexes, notre tâche reste la même. Écouter, comprendre, et lorsque c'est nécessaire, apporter notre aide avec le maximum de présence, de compassion, sans oublier que parfois, eh ben, un bon vieux tête-à-tête, une bonne discussion, vaut tous les chats avec toutes les IA du monde. Et quoi qu'il en soit, Clarisse, merci pour cette belle et éclairante question. Merci pour vos questions et merci à Gilles Gaillard à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à l'inénarrable Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Jean-Pierre Winter. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast dans l'application Radio France sur toutes les plateformes ou sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 19 mai pour mon prochain épisode.